Vous écoutez On lit pour vous.
La douleur chronique semble déformer la perception du corps. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 6 juillet 2026 dans la presse. Les patients qui vivent avec une douleur chronique non associée au cancer ont souvent une perception de leur corps qui est radicalement différente de la réalité, ce qui présente plusieurs enjeux pour eux et pour le personnel soignant, rappelle une étude publiée récemment par des chercheurs québécois. Si cette distorsion de la perception corporelle était déjà bien documentée chez les patients atteints d'un syndrome douloureux régional complexe, il semblerait maintenant qu'elle touche un nombre encore plus important d'individus, a souligné l'une des autrices de la nouvelle étude, la docteure Anne-Marie Pinard. On se rend compte que c'est vraiment dans beaucoup de maladies que les personnes vont soit percevoir leur corps anormalement ou avoir une sensation que leur corps est plus lourd, qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leur corps, qu'elles vont négliger une partie ou ne pas l'utiliser, a dit la chef du service de douleurs chroniques au CHU de Québec Université Laval. Des fois, ça va même jusqu'au concept du soi. C'est comme si une partie du corps n'était plus à eux. Les auteurs de l'étude ont interviewé 15 adultes au profil diversifié, mais vivant tous avec une douleur chronique. Les propos recueillis ont permis d'identifier 6 thèmes principaux. Les distorsions de la perception des caractéristiques corporelles, l'altération de la conscience proprioceptive et posturale, un recentrage de l'attention sur la douleur ou un détournement de celle-ci, la perturbation des émotions et des croyances concernant le corps, des symptômes de type négligence et une perturbation du sentiment d'agentivité, le pouvoir d'agir sur soi et son environnement. Les 15 participants ont tous fait état de certains éléments de trouble de la perception corporelle dans au moins 3 thèmes, et près de la moitié d'entre eux ont signalé des troubles dans les 6 thèmes, ce qui laisse penser que les troubles de la perception corporelle pourraient être assez fréquents chez les personnes souffrant de douleurs chroniques non cancéreuses, soulignent les auteurs. Il est intéressant de noter que la plupart des thèmes et sous-thèmes semblent être communs à la plupart des participants, ajoute-t-il. On peut donc émettre l'hypothèse que ces thèmes et sous-thèmes représentent des manifestations fréquentes de troubles de la perception corporelle dans différentes pathologies douloureuses. Chaque patient aux prises avec une distorsion de sa perception corporelle aura une expérience qui lui est propre. Un patient pourra ainsi avoir l'impression que sa main douloureuse est beaucoup plus enflée ou beaucoup plus froide que l'autre, alors qu'il n'en est rien. Un autre pourra avoir une sensation de pression, au point de croire que quelque chose sortirait si on fendait sa peau. Un troisième pourra croire que le bras douloureux est collé contre son corps, alors que ce n'est pas le cas. On comprend facilement les obstacles que ce patient devra surmonter au quotidien, par exemple pour s'habiller ou pour franchir un cadre de porte, si son bras n'est pas réellement là où son cerveau le perçoit. Je pense que ça devient quelque chose d'important à questionner chez les gens qui souffrent de douleurs chroniques parce que les gens d'abord pensent qu'ils sont en train de devenir fous, a dit la docteure Pinard. Quand ils perçoivent quelque chose comme ça, souvent ils n'osent pas en parler parce que ce n'est pas connu, ce n'est pas reconnu, et des fois les gens n'en ont pas connaissance non plus. On ne s'étonne donc pas qu'une majorité des participants à l'étude aient rapporté des émotions négatives par rapport à leur corps, et même avoir une faible estime d'eux-mêmes parce qu'ils trouvent que leur corps est laid, ils se sentent emprisonnés dans leur corps, a-t-elle ajouté. D'autres patients auront l'impression d'être trahis par un corps qui ne s'est jamais comporté de cette manière, au point de dire « ce n'est plus moi, je perds le sens de qui je suis », a indiqué la docteure Pinard. Quand on n'a pas l'impression qu'on est dans son vrai corps ou que son corps n'est pas comme il doit être, après ça, c'est difficile d'entrer en relation avec quelqu'un, de reprendre des activités, parce qu'on a toujours l'impression qu'on n'est pas correct dans son soi-même, a-t-elle dit. Aucune molécule connue ne permettra à un patient de reprendre la possession d'un membre ou de recommencer à le percevoir normalement, poursuit-elle. La réadaptation passera donc par plusieurs approches non pharmacologiques, comme la psychologie ou le balayage corporel, body scan. On ne sait pas exactement encore bien quoi faire avec tout ça, a admis la docteure Pinard, mais ça reflète toute la neuroplasticité du cerveau qui se réorganise quand on souffre de douleurs chroniques. Je pense que c'est ça qui est vraiment super intéressant. Les conclusions de cette étude ont été publiées par le Journal of Pain Research. C'était « La douleur chronique semble déformer la perception du corps », un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 6 juillet 2026 dans la presse.
Le taux de participation électorale des communautés autochtones n'atteint que 40 %. Un texte de La Presse canadienne paru le 14 août 2026 dans Radio-Canada. Selon un nouveau rapport d'Élections Canada, plus de 40 % des électeurs inscrits vivant dans des communautés autochtones ont voté lors des élections fédérales de l'année dernière. C'est au Yukon que le taux de participation électorale a été le plus élevé dans les communautés autochtones, à 61,9 %, tandis que c'est au Québec qu'il a été le plus faible, à 21,1 %. À l'échelle du Canada, près de 70 % des électeurs inscrits ont voté lors des élections de 2025. Au Canada, les Autochtones ont tendance à être moins enclins que les autres à voter lors des élections fédérales, un héritage de décennies de méfiance et de tensions entre leur communauté et Ottawa. Avant 1960, les membres des Premières Nations devaient généralement renoncer à leur statut d'Indien officiel pour pouvoir voter lors d'une élection. Le souvenir de cette époque persiste, ce qui rend certains Autochtones réticents à l'idée de voter. D'autres considèrent que le fait de voter aux élections fédérales constitue une violation des traités uniques que leurs communautés ont conclus avec la Couronne. Élections Canada affirme avoir collaboré avec les communautés pour s'assurer que ceux qui souhaitent voter peuvent le faire, tandis que les candidats autochtones, lors de la dernière élection fédérale, ont cherché leurs propres moyens pour stimuler la participation électorale. Malgré ces efforts, des difficultés ont persisté lors des élections de 2025. Certains électeurs du Nunavik n'ont pas pu voter car une pénurie de personnel à Élections Canada a entraîné la fermeture prématurée de certains bureaux de vote. Dans son nouveau rapport sur la participation électorale au sein des communautés autochtones, Élections Canada a identifié des circonscriptions électorales correspondant étroitement aux limites des communautés autochtones. L'organisme a indiqué que cette approche pouvait aider à identifier des groupes d'électeurs autochtones, mais qu'elle risquait de ne pas prendre en compte les personnes vivant dans les centres urbains. Élections Canada a précisé que les données ne révèlent pas l'identité des électeurs et que certaines personnes non autochtones résidant dans ces circonscriptions électorales pourraient être incluses dans ces chiffres. Le rapport révèle que 30,2% des électeurs de l'ensemble des communautés inuites ont voté lors des élections de 2025 contre 42,1% des électeurs des communautés des Premières Nations et 50,9% des électeurs des communautés métisses. Ces données ne peuvent pas être comparées directement à celles des années précédentes, car Élections Canada a modifié sa méthodologie. Jennifer Lewis est directrice générale de PASCWA Stratégie, un cabinet de conseil qui accompagne les organisations autochtones dans leurs relations avec Ottawa et les entreprises privées. Selon elle, bien que les données d'Élections Canada ne fassent pas état d'un changement majeur dans le taux de participation au sein des communautés autochtones, l'écart entre les populations autochtones et non autochtones est un sujet qu'Ottawa doit prendre au sérieux. Elle a expliqué que l'un des principaux facteurs qui discrédite la participation électorale autochtone est le sentiment de déconnexion des électeurs vis-à-vis des processus politiques extérieurs, en partie dû à un manque d'efforts de sensibilisation de la part des députés potentiels avant et pendant les campagnes électorales. Madame Lewis a ajouté que les candidats potentiels devraient redoubler d'efforts pour tisser des liens avec les communautés autochtones. Selon elle, cela implique d'établir des contacts au-delà des grands événements communautaires tels que les powwows, qui ont tendance à attirer les politiciens non autochtones en campagne. Si nous ne sommes pas pris en compte par ceux qui cherchent à nous représenter, pourquoi irions-nous voter? A-t-elle fait remarquer. Jennifer Lewis a ajouté que, bien que la présence de députés autochtones à la Chambre des communes assure une représentation, on n'a tout simplement pas l'impression qu'il y a de lien avec la base. C'était le taux de participation électorale des communautés autochtones n'atteint que 40%. Un texte de la presse canadienne paru le 14 août 2026 dans Radio-Canada.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 23 août. En 1939, signature du pacte germano-soviétique. L'Allemagne nazie et l'Union soviétique signent à Moscou un pacte de non-agression, connu sous le nom de pacte Molotov-Ribbentrop. Un protocole secret prévoit également le partage de la Pologne et d'une partie de l'Europe de l'Est entre les deux puissances. Cet accord surprend le monde entier, ces deux régimes étant idéologiquement opposés. Il ouvre la voie à l'invasion de la Pologne une semaine plus tard et au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. C'était Éphéméride. Un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 23 août.
Itinérance et répression, le maire et la ville de Québec sont dans le déni. Un texte de David Rémillard, paru le 7 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada. La ville de Québec et le maire Bruno Marchand montrent qu'ils sont dans le déni en refusant de reconnaître les effets négatifs de la répression des personnes en situation d'itinérance. Le statu quo est pourtant intenable, selon le Regroupement pour l'aide aux itinérants et itinérantes de Québec, RAIC. Malgré les nombreux avertissements du milieu communautaire, le premier magistrat de la capitale ne bronche pas. Bruno Marchand continue de défendre la politique de tolérance zéro sur les campements des personnes en situation d'itinérance. La Ville de Québec maintient également les ménages des espaces publics sous surveillance policière, forçant le déplacement des personnes qui s'y trouvent. Malgré des discussions avec la ville ces derniers mois, le RAIC n'a pas vu les changements espérés. Au contraire, il y a plutôt, citation, « eu un resserrement des pratiques, une diminution de la tolérance dans les espaces publics et une intolérance grandissante », fin de citation, soutient sa coordonnatrice Mary Lee Plante. La position du maire est tout aussi inébranlable, déplore-t-elle. Citation, la ligne est très dure. On ne sent pas de volonté de changer son fusil d'épaule. L'itinérance est de plus en plus visible, mais ce qu'on remarque aussi, c'est une dégradation de l'état des personnes, une plus grande désaffiliation. Les pratiques de la ville contribuent à cette désaffiliation et à la dégradation de leurs conditions de vie. Fin de citation, dit-elle. Un rapport entre les mains de la ville. Qui plus est, la ville et les élus ne peuvent plaider l'ignorance selon le regroupement. L'organisme a produit un rapport l'an dernier, lequel visait précisément à vérifier les impacts des corvées de ménage et des déplacements forcés sur les personnes vivant dans la rue. Citation. L'idée était d'appuyer les observations terrain de ce qui nous est rapporté. On voulait démontrer que ce n'est pas juste des anecdotes. Fin des citations, explique Madame Plante. Le rapport arrive à des constats similaires à ceux rapportés par Radio-Canada cette semaine. Citation. Certaines pratiques, notamment la saisie ou la destruction de biens, l'imprévisibilité des opérations de nettoyage et le recours systématique à une présence policière peuvent engendrer des conséquences importantes en matière de santé, de sécurité, d'accès aux services. Fin de citation, peut-on y lire. On y rapporte que les personnes en situation d'itinérance sont presque systématiquement déplacées des lieux publics en amont des ménages, avec peu de temps pour réagir et récupérer leurs effets personnels. À la lumière de ces observations, on ne peut plus être dans le déni, tranche Mary Lee Plante, qui estime que les droits des personnes en situation d'itinérance sont bafoués. En mode collaboration, elle demande à la ville, aux élus et à la police de Québec de s'asseoir avec le milieu communautaire. Les personnes ne vont pas disparaître. Sa collègue, Frédérique Rivet, abonde dans le même sens. Elle rappelle d'emblée que les statistiques montrent une augmentation marquée de l'itinérance dans la province et à Québec. Citation. C'est une situation que la ville ne peut pas ignorer. Il y a plus de personnes dans les espaces publics. Fin de citation. Selon Mme Rivet, le serment de vice imposé depuis le printemps dans la capitale semble être, citation, une réaction à cette augmentation de la population itinérante. Fin de citation. À son avis, il est impossible de cacher cette réalité malgré toutes les mesures répressives qui pourraient être utilisées. Citation. Les déplacés, ça ne fait pas disparaître les personnes. On les précarise et on enlève le peu de sécurité qu'elles ont. Fin de citation, plaide l'organisatrice communautaire du RAIC. À son tour, elle réclame une rencontre avec les autorités municipales. Citation. La réponse qui est offerte par la Ville de Québec ne répond aux besoins de personne, ni aux personnes logées, ni aux personnes en situation d'itinérance. Fin de citation, dit-elle. Enjeu de cohabitation. Le RAIC veut être clair. Citation. Notre posture n'est pas de demander l'arrêt des ménages au centre-ville. Tout citoyen a droit d'avoir accès à des espaces publics propres. Fin de citation, précise Mary Lee Plante. L'idée est de les encadrer, de les rendre prévisibles et d'éviter les conséquences mentionnées dans le rapport. L'organisme est également conscient des tensions qui peuvent exister, en particulier dans le quartier Saint-Roch, où la majorité des personnes en situation d'itinérance et des organismes sont concentrées. Citation. On reconnaît qu'il y a des enjeux de cohabitation, que la population peut être confrontée. Fin de citation, ajoute Madame Plante. Ces intervenantes espèrent donc une collaboration entre toutes les parties pour en arriver à des voies de passage, mais toujours dans le respect des droits des personnes en situation d'itinérance, des citoyens à part entière. L'organisme comprend enfin que la Ville de Québec n'a pas tous les leviers nécessaires pour s'attaquer aux causes de l'itinérance. Le RAIC estime cependant qu'elle ne peut pas toujours renvoyer la balle. Selon Madame Plante, elle peut faire sa part en adoptant une approche plus respectueuse et en comblant les besoins de base des personnes, comme l'accès à l'eau et des installations sanitaires. Tel que le mentionnait le RAIC dans son rapport envoyé à la Ville, les mesures réclamées par le regroupement ne seront pas une solution de fond à la crise. On espère plutôt arriver à un ensemble de mesures urgentes et transitoires destinées à réduire les préjudices immédiats. Des solutions ne seront toutefois trouvées que si l'administration en place en assume le leadership. Selon le RAIC, l'orientation va venir du maire. Le service de police de la Ville de Québec et la Ville n'avaient pas répondu à nos demandes au moment d'écrire ces lignes. Le cabinet du maire prévoit réagir mardi, en marge du conseil municipal. C'était « Itinérance et répression, le maire et la Ville de Québec sont dans le déni », un texte de David Rémillard, paru le 7 juillet 2026 sur le site de Radio-Canada.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août. En 1932, Amelia Earhart traverse les États-Unis en solo. L'aviatrice Amelia Earhart devient la première femme à effectuer une traversée transcontinentale sans escale des États-Unis en avion monoplace. Ce vol confirme son statut de pionnière de l'aviation, quelques mois après avoir traversé l'Atlantique en solitaire. Son courage et ses exploits en font une icône pour les femmes du monde entier. Elle disparaîtra mystérieusement quelques années plus tard lors d'une tentative de tour du monde. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 24 août.
Crise énergétique. Les facteurs de risque s'accumulent. Un texte signé Yvan Klisch, qui est spécialiste en énergie au Centre d'études et des recherches internationales de l'Université de Montréal, le CEREUM. Texte publié dans la presse du 4 août 2026. Que ce soit l'entrée de nouveaux acteurs dans le conflit entre l'Iran et les États-Unis ou la diminution des réserves stratégiques de pétrole, les possibilités d'aggravation de la crise énergétique actuelle ne manquent pas. Le début du mois d'août marque l'entrée dans le 7e mois des hostilités entre Israël, l'Iran et les États-Unis. Cette guerre a entraîné une forte perturbation du transit d'environ 20 % du pétrole et du gaz consommés dans le monde. En mars, l'Agence internationale de l'énergie a qualifié cette rupture d'approvisionnement de plus grave crise énergétique de l'histoire moderne. Depuis cette déclaration, 4 mois supplémentaires de tensions se sont écoulés, entrecoupés d'une brève trêve de quelques semaines. Autrement dit, cette crise sans précédent se prolonge sans solution durable en vue. Or, à mesure que les hostilités s'éternisent, de nouveaux facteurs risquent de mettre une fois de plus à l'épreuve la résilience du système pétrolier mondial. Premier sujet de préoccupation, l'attitude des Houthis. Grâce à son oléoduc S-Ouest, l'Arabie saoudite a pu, depuis février, détourner une grande partie de ses exportations du Golfe Persique vers la mer Rouge. On craignait que cette solution de rechange soit compromise par des attaques des Houthis du Yémen. Ceux-ci étaient toutefois demeurés à l'écart des combats jusqu'à récemment. Ils ciblent désormais des navires saoudiens transitant par le détroit de Bab el-Mandeb. Riyad peut certes réorienter une partie de ses cargaisons vers le canal de Suez, mais les volumes transportés sont plus limités et les délais d'acheminement vers l'Asie s'en trouvent considérablement allongés. Deuxième motif d'inquiétude, la posture de la Chine. Probablement soucieux de préserver une économie mondiale qui demeure essentielle à l'écoulement de ses exportations, Pékin s'est partiellement retiré du marché pétrolier, réduisant d'environ 40 % ses importations, qui atteignaient auparavant quelque 11 millions de barils par jour, les plus importantes au monde. Les 4 à 5 millions de barils ainsi libérés ont permis d'approvisionner d'autres pays asiatiques, les plus durement touchés par les perturbations dans le détroit d'Ormuz, puisqu'ils dépendent fortement des producteurs du Golfe Persique. La Chine puise donc dans ses importantes réserves stratégiques. Mais jusqu'à quand acceptera-t-elle de poursuivre cette politique qui réduit progressivement sa marge de manœuvre face à d'éventuels nouveaux chocs? Troisième élément de préoccupation, l'état des réserves pétrolières mondiales. Leur ampleur réelle demeure difficile à évaluer, la majorité des pays ne publiant pas ces données. Une chose paraît néanmoins certaine, ces stocks ont été largement sollicités depuis le début de la crise et se sont amenuisés. L'exemple de la réserve stratégique américaine, Strategic Petroleum Reserve, est révélateur. Le recours exceptionnel à quelque 200 millions de barils en 2022 afin d'atténuer les conséquences de l'invasion russe à l'Ukraine explique en partie cette faiblesse historique. Même si, en 2026, les États-Unis ont porté leur production pétrolière à un niveau record, soit près de 14 millions de barils par jour, ils disposent aujourd'hui d'une marge de manœuvre plus limitée pour soutenir le marché mondial grâce à leurs réserves de pétrole. Celles-ci se situent à leur plus bas niveau depuis le début des années 1980. Enfin, les déclarations optimistes de la présidence américaine ont également contribué à contenir la hausse des prix. Chaque annonce, laissant entrevoir un règlement imminent des hostilités, a temporairement fait reculer les cours du pétrole. Or, aucune de ces promesses ne s'est concrétisée. Il est donc permis de croire que ce type de déclaration exercera désormais une influence plus limitée sur les marchés.
Des mois déterminants.
Depuis le début de la crise, le système pétrolier mondial a fait preuve d'une robustesse supérieure aux attentes. Les prix ont certes progressé d'environ 40 % mais en deçà des prévisions de nombre d'observateurs qui envisageaient un prix du baril à 150 $. Mais les prochains mois seront déterminants. Chaque escalade militaire ravive la crainte qu'un conflit prolongé réduise durablement l'offre mondiale, accentuant d'autant la nervosité des opérateurs. Une telle évolution accentuerait les pressions inflationnistes, alimenterait les attentes de nouvelles hausses des taux d'intérêt et pèserait davantage sur la croissance économique. En l'absence d'une solution durable pouvant permettre une navigation à peu près normale dans le golfe Persique et en mer Rouge, les secousses énergétiques et économiques à venir risquent d'être passablement plus difficiles à absorber que celles observées jusqu'à présent. Fin de ce texte de Yvan Clich, titré « Les facteurs de risque s'accumulent en regard à la crise énergétique », texte publié dans la presse du 4 août 2026.